Bonjour Renaud Dourge en votre compagnie. Eh bien, j'ai le plaisir d'être avec un invité que nous connaissons déjà bien dans ce studio. Il s'agit bien sûr de Albert Villemetz. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'il connaît bien, c'est Sacha Guitry.
Mille merci.
Pour un ouvrage alors qui s'appelle « Si j'ai bonne mémoire », ce sont des textes de Sacha, différents textes qui considèrent une partie de ses mémoires en quelque sorte.
Exactement. Là, souvent, vous avez des livres qui sont écrits sur Sacha Guitry. Nous-mêmes, nous avons publié à l'association Les Amis de Sacha Guitry une biographie qui raconte toute sa vie du début à la fin. Mais là, nous sommes à la source. Quel est le plus grand historien ? L'histoire, les archives. Et là, nous avons donc les textes de Sacha Guitry lui-même.
Et dans sa biographie, c'est la première fois d'ailleurs que je vois un ouvrage dans lequel on évoque, même si c'est un peu rapidement, sa mère.
Oui, parce que sa mère est morte quand il était très jeune.
Et alors déjà, il ne l'avait pas beaucoup vu, puisqu'on va en parler, il était parti en Russie avec son père. Et son grand-père, c'était Monsieur de Pont-Geste.
Absolument, qui était un monsieur qui était très parisien, qui recevait beaucoup chez lui, qui recevait Sarah Bernhardt, qui recevait la Comédie Française et qui un jour a reçu le jeune Lucien Guitry qui avait 20 ans et qui a commencé à dire des vers. Ce que ne savait pas Monsieur de Pont-Geste, c'est que Lucien Guitry revenait à chaque grande soirée organisée par ce monsieur à cause de sa fille, qui était une beauté.
Et lui refusait que sa fille se marie avec un baladin.
Avec un comédien. C'est-à-dire que Lucien Guitry demande première fois la main, refusée, deuxième fois refusée, troisième fois refusée, et la quatrième fois, si j'ose dire naturellement, il l'enlève pour se marier à Londres où les formalités sont beaucoup plus simples, et il a comme témoin Sarah Bernhardt, avec qui il joue à Londres, et qui elle-même vient de se marier avec l'homme qu'elle a le plus aimé d'Amala, ce qui avait ouvert la voie à la partie administrative pour ça. Mais Lucien Guitry était follement amoureux de la mère de Sacha.
Mais le mariage ne va pas durer très très longtemps, puisqu'ils vont divorcer lorsque Sacha a 4 ans.
Voilà, en réalité, Lucien Guitry est un homme libre, ce qui est rarissime, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il monte sur scène pour pouvoir être indépendant financièrement. Il ne s'entend pas à Paris avec les directeurs de théâtre et on lui offre un contrat en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et donc là, il va jouer tout l'hiver à Saint-Pétersbourg pendant 7 saisons de suite, là où naît Sacha Guitry, là où naît le frère de Sacha Guitry.
Le prénom Sacha, rappelons que c'est le diminutif d'Alexandre, comme le tsar.
Voilà, puisque, comme vous le rappelez si bien, le tsar Alexandre III était le parrain de Sacha Guitry, dont le vrai prénom est Alexandre, et Molière avait eu également pour son fils le roi Louis XIV comme parrain. J'adore le parallélisme.
Et d'ailleurs, Sacha, lorsqu'il est revenu en France, beaucoup d'enfants de l'époque se moquaient de lui à cause de son prénom, de Sacha.
Oui, ça passait pas du tout. Et en réalité, les gens étaient extrêmement 19e siècle, ce qui est logique quand on est en plein 19e siècle. Donc tout ce qui était un peu original, et quand il était dans les écoles, on l'a toujours appelé affublé de sobriquet et de non pas très gentil.
Depuis, il y a eu Sacha Distel qui a popularisé, si on peut dire, ce prénom également.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a différents crus, si j'ose dire, suivant les époques.
Son père va l'enlever en prétextant être allé acheter des gâteaux avec lui.
C'est absolument inouï. C'est la dernière représentation. Les parents ont déjà divorcé, après 4 enfants, 2 qui sont morts, qui sont nés en France, morts à la naissance, la mortalité était inouïe à l'époque. Et son frère aîné va mourir plus tard, et le frère aîné en Russie également. Et puis, comme ils sont séparés, ils habitent avec leur mère à l'époque, et puis le dîner, tout ça se passe entre gens de bonne compagnie, ils dînent avec la grand-mère, de la mère de Lucien Guitry. Et puis, comme vous le dites, Lucien Guitry dit « Oh, tu as bien travaillé, je vais t'emmener prendre des gâteaux. » Et en réalité, il enlève son fils Sacha, qui est le plus jeune des deux, pour passer la dernière saison à Saint-Pétersbourg. Et là, il lui donne tous ses vêtements de comédien en réduction. Et il va faire cette chose inouïe qu'on ne verra plus jamais, devant le tsar Alexandre III et la famille impériale, Zarskoye Selo, Il écrit une pièce avec Davidoff, le mime Pierrot Blanc.
Et il y a la photographie dans votre ouvrage.
Voilà. Et c'est très touchant parce qu'on voit Lucien Guitry qui est un homme jeune, il a une trentaine d'années. Sacha qui en a 5. Et c'est la transmission du père au fils parce qu'on voit le petit Sacha avec un vêtement beaucoup trop grand. Et cette pantomime avait été écrite spécialement, c'était à volonté formelle de Lucien Guitry, de donner à son fils la joie d'être dans le plus beau décor qu'on puisse imaginer, le palais, un palais impérial, et comme public, la famille impériale. Et après, ils ont dîné avec son parrain et toute la famille.
Alors, ce qui est également extraordinaire, c'est que bien plus tard, il rencontrera la veuve de Debureau, qui est un grand mime également.
Voilà, en réalité, Sacha a rencontré absolument tout le monde, même Charlie Chaplin, il y a même des images filmées avec lui. Et en effet, il est en train d'écrire Debureau et on lui annonce que la veuve de Debureau habite juste à côté de chez lui, près de la rue Pergolèse. Il y va, il lui montre les reliques. Mais il avait été tellement frappé par Debureau, qui est une merveille, que l'association vient de publier à nouveau, avec beaucoup de commentaires dans la dernière version, puisque Debureau, c'est le travail et l'amour. On a besoin des deux. Quand l'un ne va pas bien, l'autre compense un peu. Et c'est le travail, le théâtre qui lui-même est l'amour. Adore ton métier, c'est le plus beau du monde. Mais sa nécessité est profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux. Autrement dit, on donne du bonheur au public. Et Debureau, c'est ça comme idée.
Et rappelons que Debureau, c'est un des personnages des Enfants du Paradis. Le film de Carnet, il est interprété par Jean-Louis Barrault dans ce film.
Oui, et ce qui est terrible, bouclant la boucle du temps, la dernière fois où Sacha Guitry, après Six Versailles m'était compté, étant lui-même très malade, décide de monter sur scène l'ultime fois, prenant des médicaments entre chaque scène, ça se passe bien entendu avec Debureau, où il rejoue à nouveau Debureau. Et la dernière fois, il aura été sur scène, ça aurait été avec Debureau, qu'il avait joué avec Yvan Printemps. Et dans le livre, c'était absolument stupéfiant, de Debureau que nous venons de publier, parce qu'on voit Yvan Printemps qui joue le rôle de la dame aux camélias, ce qui n'est pas illogique, c'est une très belle femme, elle a plein de charme. Mais en plus, elle joue le rôle du fils de Debureau. Et c'est lui, alors qu'on ne le voit pas dans le film, puisque ça a été filmé, elle joue le rôle de son fils. Pour que le public puisse le croire, la seule prodige que j'ai vue comparable, c'est Madame Sarah Bernhardt jouant l'aiglon, c'est-à-dire un garçon de 18 ans quand elle en a 60 et que tout le monde le croit.
Donc il va y avoir cet épisode russe, retour en France, et alors là ça va être la longue, longue liste des écoles, des collèges, pensionnats et autres.
Voilà, il semblerait que déjà à l'époque, Lucien Guitry, qui avait appris tout le théâtre français tout seul en allant dans les librairies et bibliothèques municipales à côté de chez lui, pensait qu'on pouvait faire en grande partie son éducation seul, ou que le système scolaire de l'époque, ça s'est sûrement amélioré depuis, mais le système scolaire de l'époque n'était pas exceptionnel.
Résultat. D'ailleurs, il va écrire des réflexions à ce sujet très intéressantes.
Oui, tout à fait.
Mais je voudrais que nous en revenions à cette série d'écoles, il y en a certaines où ça a été vraiment dantesque.
C'est absolument inouï. Comme chaque fois qu'on changeait d'école, il fallait redoubler, Sacha Guitry est toujours resté en sixième. Comme il disait, je peux vraiment dire ma sixième. Et à chaque fois, c'est tellement fou qu'il y a une preuve historique, qui est le fameux cahier d'un professeur.
Oui, les annotations sur les élèves, on n'oserait plus faire ça aujourd'hui.
C'est absolument inouï. C'est très drôle et c'est tellement original que Sacha a voulu l'avoir
volé. Drôle involontairement de la part de ce professeur.
C'est ça qui est... Voilà. Et c'est même parfois presque triste, un second degré quand on le regarde. Mais Lucien Guitry trouvait ça tellement extraordinaire que Sacha l'avait volé pour que son père puisse le voir, le commenter avec les amis. Et c'est une tranche de vie sociologique, si l'on peut dire aussi, qui est absolument incroyable. Le professeur écrit avec un humour volontaire ou involontaire, mais dans tous les cas de figure, c'est absolument inouï. Heureusement, ce texte nous est parvenu.
Oui. Alors, dans ces écoles, il va y avoir vraiment des épisodes assez croquignolesques, comme dirais-je. Un directeur d'école va vouloir le renvoyer, mais il ne peut pas.
Alors ça, c'est la fin des écoles, si j'ose dire. Il avait terminé ses études, enfin, il avait plutôt terminé le temps de l'école que les études.
De la sixième, c'est
voilà.
Pas le sixième
éternel. Encore une fois, le directeur vient voir Lucien Guitry dans sa loge en disant « Écoutez, monsieur, j'ai un énorme problème avec votre fils. Oh, écoutez, dans ce cas-là, fichez le doigt. Monsieur, je ne peux pas, il n'est pas rentré depuis 5 jours. Donc voilà un peu la... Mais Sacha déjà avait écrit sa première pièce de théâtre à l'école. Le page.
Et il y a aussi une école où le directeur va mourir. C'est le fils du directeur va reprendre l'école où ils ne vont rien faire du tout. En fin de compte.
Ah, la litanie scolaire est une chose qu'on ne peut même pas imaginer. Le fils décide de garder les montants des frais de scolarité et de s'amuser. On n'imagine même pas ça dans un film aujourd'hui. Alors forcément, quelqu'un après a vendu la mèche et ça s'est su. Et tout était comme ça, il faisait tout pour se faire renvoyer. Parce que son frère, qui était terrible aussi, plein d'humour, lui disait « Écoute, je suis dans telle autre pension, on s'y amuse beaucoup plus, toi à renvoyer de l'autre. »
Et donc, réussissait généralement.
Il réussissait, mais après beaucoup de travail pour le faire.
Alors il va y avoir donc les années qui vont passer, les débuts au théâtre et... La cause de fâcherie avec son père, c'est avec une histoire de casque qui est assez amusante.
Alors, c'est très beau parce qu'en réalité, Sacha, au départ, avait commencé à écrire plusieurs pièces qui commençaient à marcher. Il voulait jouer au théâtre, mais ça ne marchait pas bien. C'est son père qui l'a embauché au théâtre de la Renaissance. Donc, le père a tout fait pour aider son fils au départ. Le problème, c'est que le fils, comme disait Albert Villemette dans une interview, Sacha Guitry blaguait au départ. Et le père ne blaguait absolument pas. Et Sacha, sans faire exprès, va assister à un très beau costume de Paris, qui est reproduit dans le livre aussi, grec, dans toute sa beauté, etc. Et il va le faire photographier pour s'en souvenir par Nadar, le fils du fameux Nadar. Il prend du retard et il arrive 20 minutes en retard à la représentation.
Et plus le perruque non plus.
Alors, il avait laissé la perruque sans le faire exprès dans le taxi, pour simplifier, qu'il avait raccompagné là-bas. Si bien que lorsqu'il arrive sur scène et que le grand casque, sublime casque grec, lui tombe sur, etc., quelqu'un dit « il a quelque chose de changé, Paris, aujourd'hui ». Tout le monde rigole, c'est l'emboîtage. Oui. Le père est fou furieux et il met au tableau 100 francs d'amende. Sacha gagnait 10 francs par jour. Mais il vivait chez son père. Donc, mais moralité, Sacha a eu tort de dire que c'était excessif. 20 minutes de retard avec le public qui tape des pieds parce qu'on ne peut pas lever le rideau. Alors que Lucien Guitry, dans son théâtre, qui n'est jamais arrivé en retard une seule fois, qui s'est toujours organisé pour que ce soit absolument parfait, c'est inadmissible comme chose. Et Lucien Guitry dit, puisque c'est comme ça, c'est à prendre... Ou à laisser.
Et c'est Monsieur Dorset, puisque c'était le pseudonyme de Sacha, qui est à l'amende, donc.
Voilà, Monsieur Dorset est à l'amende, et Sacha, à ce moment-là, comme on peut l'entendre dans la merveilleuse interview d'Albert Villemette, à qui on avait posé la question il y a quelques années, il est allé se réfugier chez Alphonse Allais, où il a commencé à faire une première pièce, et puis après, Sacha a recommencé à dessiner, puisqu'il dessinait quand il n'avait plus de sous, pour pouvoir vendre dans les journaux ses dessins. Et il avait racheté du papier de dessin. Et c'est là où il a écrit une scène qui lui est revenue en tête. Et ça a été le premier acte de Nono, 1905. Il a 20 ans.
Qui existe toujours, d'ailleurs, et, qui est joué toujours.
Qui a été joué il y a quelques années au théâtre de la Madeleine par Michel Faux, par Julie Depardieu, qui a été un triomphe, comme toutes les pièces jouées de Sacha Guitry et en plus jouées par Michel Faux. La Michaudière était absolument bondée. Et j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas pu y aller parce que les bonnes places n'étaient même pas libres. Jouer du Guitry avec un bon acteur, une bonne mise en scène, vous êtes certain que le théâtre est plein.
Bien sûr. Autre épisode dans sa vie, de l'inconvénient de vouloir se faire réformer pour le service militaire, ça ne marche pas à tous les coups.
Voilà, en réalité, Sacha avait besoin, pour vivre, d'avoir ses recettes de comédien et de droit d'auteur. On lui dit service militaire. Ah, alors d'abord, il a un sursis parce que son frère est déjà sous le drapeau. Le sursis, ça s'arrête. Il apprend que s'il est marié... Il peut avoir un nouveau sursis. Il épouse Charlotte Lizès à ce moment-là.
Sa première épouse.
Et puis après, tout est fait pour essayer qu'il puisse au moins jouer le soir pour garder ses éléments de revenus. Et puis, c'est impossible. Il écrit son service militaire comme on ne l'a jamais fait.
Nous allons en parler un petit peu, mais avant, nous laissons passer un communiqué, si vous le voulez bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, je parlais donc de cette tentative de réforme grâce à un ami qui était très bien placé auprès des ministres, mais pas aussi bien que cela.
Voilà, en réalité, c'était un grand homme de presse qui est allé voir le ministre, qui a fait ce qu'il a pu comme chose, mais dans la pratique, il y avait quand même un minimum à faire. Alors, Sacha va être très bien reçu. Il réussit à avoir une chambre pour lui tout seul.
Oui,
tout
dans la bibliothèque.
Voilà. Tout ça est raconté d'une façon absolument prodigieuse par Sacha Guitry lui-même, parce que ce qui est très amusant, c'est que c'est lui qui le raconte avec force détail et avec son style qui est absolument merveilleux. Et puis, ce qui n'est pas du tout prévu, c'est qu'à un moment, il essaye de se faire réformer pour raison de santé. On le met dans un endroit où, malheureusement, il y a de la terre battue. Il attrape des rhumatismes, lui déjà, qui était un peu sensible à ça. Et on imagine la suite.
Mais en plus, lorsqu'il a eu sa première chambre, entre guillemets, tous ses camarades pensaient qu'il allait mourir parce que c'est la chambre que l'on réservait aux agonisants, pratiquement.
Oui, alors ça, c'est l'avantage. Sarah Bernard connaissait Clémenceau. Clémenceau faisait appeler par son directeur de cabinet tous les jours pour savoir si tout se passait bien. Donc, il a eu un service militaire absolument sur mesure. Mmh. Mais ce qui était très embêtant, c'est quand il est vraiment devenu malade. Et là, le médecin était très embêté en disant « J'espère que vous n'allez pas devenir malade maintenant. » Il se sentait responsable.
Et, autre chose extraordinaire, il va avoir une ordonnance qui n'est autre que son caporal.
Voilà, absolument. Et au moment où il... pour son premier service militaire, quelqu'un vient le voir en disant « Mais vous devriez être déjà en service au tout début. Je ne peux pas. » Il monte ses genoux qui sont comme des ballons de rugby. « Mais qu'est-ce que vous avez, etc. Bah, vous avez c'est de la goutte, etc. » Il commençait. Alors, et le caporal qui est là vient lui dire ce qui se passe et il lui fait une ordonnance en disant « Voilà comment moi je me soigne. » Et puis pendant son service militaire, il va prendre une ordonnance et non pas un ordonnance et non pas une ordonnance, excusez-moi. Et il va le prendre pour pouvoir l'aider dans la vie de tous les jours, comme on faisait à une époque où il y avait beaucoup de gens qui aidaient. Ce qui était extrêmement sympathique comme chose.
Et c'était son supérieur hiérarchique, l'on peut dire.
Voilà. Il disait, ouais, alors je veux bien vous aider pour tout, faire le lit, vous apporter le café le matin, mais ne le dites pas aux autres. Pourquoi ? Je suis votre caporal.
Il fallait vraiment y penser. Cet ouvrage, donc, si j'ai bonne mémoire, est composé de différents textes. Alors, il y a « Chez les Oaks », il y a le règlement à l'usage des invités, deux couverts, et c'est également le 15e volume de ses mémoires.
Oui, c'est-à-dire que nous avons réuni le maximum des textes concernant sa vie et écrits par lui dans un ouvrage qui a beaucoup de pages, il faut l'avouer, et qui est illustré par des photographies plus ou moins connues d'époque, ce qui permet d'avoir vraiment un témoignage exact de ce qui se passait pour ça. Mais raconter à la Guitry, jamais ennuyeux, toujours extrêmement original, divertissant et bourré d'anecdotes absolument irrésistibles.
Il y en a une sur son premier amour, une dame à qui il va apporter un magnifique bouquet.
Ah oui, ça c'est merveilleux. Il est tout jeune.
Il a 13 ans.
Voilà, il est tout jeune, mais déjà le printemps arrive. C'était la plus jolie dame de Paris. Il ne dit pas qui c'est, on le dira après parce qu'on peut, mais c'était la plus jolie dame de Paris. Il avait ses petites étrennes chaque semaine. Ses parents lui donnaient un petit peu d'argent pour qu'il puisse acheter des bonbons. Il n'achète plus, il garde tout pour acheter un bouquet de fleurs. Il arrive, il achète le plus grand bouquet de fleurs qu'il peut. Il se précipite chez la dame. On fait un peu de difficulté pour les laisser rentrer, la femme de chambre dit « Mais madame est dans son cabinet de toilette, est-ce que je peux passer quand même pour donner les fleurs ?» Alors il arrive devant elle, il lui donne les fleurs, il est tout ému. « Oh, merci pour les fleurs !» Elle les respire. « Oh, comme ils sentent bon, c'est merveilleux !» Alors le petit Sacha de 13 ans est tout ému, tout retourné, et la dame répond « Tu remercieras bien ton père de ma part. » C'était donc perdu.
Une autre anecdote avec... Alors, un jour, il a fait le mur avec un de ses camarades pour aller voir un spectacle et surtout pour, on peut dire le mot un peu vulgairement, draguer une danseuse.
Ah oui, ça c'était la fameuse époque où la femme ne lui avait pas été encore révélée et finalement il se retrouve avec une des grandes danseuses du Moulin Rouge et puis le hasard fait que dans le dîner avec un de ses copains, le copain lui dit « Tu pourrais nous avoir des places pour tel théâtre par ton père ?» Et la danseuse lui dit « Mais ton père est cabot, C'est qui ? Alors le garçon dit, bah, c'est Lucien Guitry. Quoi ? Et vous sortez avec une femme que vous connaissez à peine, comme ça, dans un dîner ? Et elle les a raccompagnés à la pension pour être sûre qu'ils n'iraient pas ailleurs. Il y avait de la morale.
Oui, effectivement.
Partout.
Alors cet ouvrage est paru, mais il y a deux autres ouvrages dont nous aurons peut-être l'occasion de parler dans quelques temps, toujours de ses mémoires. Il s'agit des 4 ans d'occupation et des 60 jours de prison. Ça aussi, deux ouvrages qu'on peut qualifier pratiquement d'historiques.
Ah, c'est mythique. Et en plus de ça, nous sommes en train de compléter par la totalité des pièces de théâtre. Nous venons de publier donc De Bureau, mais aussi Beaumarchais, que très peu de personnes ont lu.
Qui était adapté au cinéma il y a quelques années,
voilà,
d'ailleurs.
Mais là, c'est le texte original, avec la distribution théorique, ce qui est extrêmement intéressant aussi, des petites notes. Et également, puisque Sacha Guitry était la personne la plus connue de France comme auteur et comme acteur, le Palais de l'Élysée avait demandé à Sacha Guitry, en 1938, de faire un spectacle pour la venue du roi et de la reine d'Angleterre. Et Sacha Guitry avait fait un spectacle pour l'Élysée qui s'appelle « Dieu sauve le roi » à l'Élysée en 1938, où il est Louis XIV, l'ambassadeur au temps de Louis XIV d'Angleterre s'appelait Lord Churchill, ça ne s'invente pas. Et la scène est absolument stupéfiante puisqu'on donne le God Save the King qui, à l'époque, est...
Et puisque c'était le roi George V.
George VI, exactement.
George VI, pardon.
Et là, en plus de ça, on voit Lully qui harmonise le fameux air britannique, etc. L'année suivante, il est retourné, Sacha, en Angleterre pour la visite du président Lebrun encore. Pour ça. Et ces deux textes-là, Dieu sauve le roi et On y soit qui mal y pense, nous venons de les publier, personne ne les a lus et c'est absolument irrésistible ce qu'il ait pu sortir avec des phrases invraisemblables. Si un jour nous ne sommes plus en monarchie, non, mais c'est des choses que personne ne connaît et nous sommes ravis à l'association des amis de Sacha Guitry d'avoir pu publier.
Ben, ça sera probablement l'occasion d'une autre émission. Lorsque j'aurai pu lire ces deux ouvrages, que j'attends avec plaisir, parce que lorsque il s'agit de Sacha, on ne se lasse jamais. Nous allons pratiquement arriver à la fin de cette émission. Bon, vous avez assez souvent des signatures et je pense que vous avez un public qui aime beaucoup Sacha Guitry.
Oui, et ce qui est très touchant, c'est que le public est très large et redécouvre un auteur toujours agréable, profond, sous une apparence de légèreté. Et comme ce sont les textes originaux et non pas toutes les erreurs qu'on peut trouver parfois, même dans les endroits d'Internet les plus certains, on a des textes qui sont... La réalité dépasse toujours la fiction et les textes publiés sont infiniment supérieurs à ce que les gens imaginent.
Alors, on peut paraphraser Sacha qui disait « Quoi de neuf Mozart ?» On peut dire « Quoi de neuf Guitry ?»
Exactement. Quoi de neuf Molière, quoi de neuf Guitry.
Nous arrivons au terme de cette émission. Alors, il a écrit également des paroles de chansons. Et nous allons terminer d'ailleurs par une chanson de quelqu'un. Je ne sais plus s'il avait joué dans Si Versailles ou Si Paris m'était compté, Mouloudji.
Je ne pense pas.
Non, je ne pense pas, mais bon, il a chanté Guitry en tout cas.
Absolument.
Et nous allons terminer. Alors, je rappelle cet ouvrage, Sacha Guitry, si j'ai bonne mémoire. C'est donc paru aux éditions des Amis de Sacha Guitry. C'est un ouvrage vraiment vraiment passionnant, avec de nombreuses photographies, des dessins de Sacha, car Sacha était dessinateur, excellent dessinateur également. Encore merci à vous d'être venu aujourd'hui.
La vie est une douche écossaise, et ça dit bien ce que ça veut dire. Sitôt qu'une chose vous fait plaisir, faut qu'il y en ait une qui vous déplaise. Mais bien que ce soit, à mon avis, comme une espèce de complot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Le mardi soir, une femme vous aime. Le mercredi, elle vous aime plus.
Quant à savoir ce qui a déplu, elle n'en sait rien sans doute, elle m'aime. Mais bien qu'elle soit toute des girouettes et que nous soyons tous des nigauds, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Il y a les amis, il y a la famille, mais faut pas en avoir besoin. Quant aux copains, dès qu'on est loin, sont les premiers qui vous torpillent. Mais bien qu'il y ait tant de méchants qui nous envient et de salauds, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau. Et plus que les autres, il y a soi-même sur qui on ne peut guère compter. Et l'on finit par récolter toutes les sottises que l'on sème. Mais bien qu'on soit son pire ennemi, dégoûté de soi et de son lot, on ne peut pas passer sa vie à se foutre à l'eau.